On emploiera un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Voilà. Merci. Alors, vous vous souvenez tous de la vision générale du tabernacle, hein, un enclos avec des clôtures en toile assez hautes, et il y avait une cour dans laquelle il y avait l'autel où se faisaient les sacrifices, puis le cube pour se laver les mains. Et après, dans le tabernacle lui-même, il y a deux pièces. Dans la première pièce, il y a trois éléments, le chandelier avec un. Et dans la deuxième pièce, il y a un seul élément principal, c'est l'arche. Et comme quelqu'un l'a fait remarquer, tout cet ensemble, eh bien, dès qu'on construit quelque chose, on pense toujours au luminaire. Il faut toujours de la lumière à un moment donné pour pouvoir profiter des lieux. En fait, quelqu'un a fait cette remarque intéressante, le parvis, la cour, était donc éclairé par la lumière du soleil le jour, hein, et par aussi la nuée de feu la nuit. Mais le jour, c'était par le soleil, une lumière finalement accessible à tous. Ensuite, il va y avoir dans le lieu saint la lumière du chandelier, dans le lieu très saint, la lumière de la gloire de Dieu. Alors, on pourrait, quelqu'un a fait une méditation sur ces trois sources en montrant une progression, un certain crescendo dans ce qui est la façon dont Dieu éclaire les hommes. Tout d'abord, la première étape, c'est le soleil, c'est la création, c'est la connaissance générale de Dieu au travers de ses œuvres. Et puis, une fois qu'on passe l'autel des reins, on va entrer dans la communion avec Dieu, et là, une autre source de lumière, c'est le chandelier. Et ce chandelier est une image magnifique de la vie de l'Esprit dans l'Église. Et nous verrons plus en détail cela, qui rayonne. D'ailleurs, la Bible dit aussi, bien sûr, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, le chandelier va nous apprendre des choses sur Christ. Mais comme nous sommes devenus un en Christ dès notre conversion, ça va nous apprendre des choses sur l'Église, sur ce que la Bible appelle les enfants de lumière. Et bien sûr, après, l'intimité finale, où même l'Apocalypse dit on n'aura même plus besoin du soleil, plus besoin de rien, on ne se souviendra plus de toutes ces choses, puisque la gloire de Dieu éclairera tout, quand on arrivera dans le lieu très saint. Alors, sur le chandelier lui-même, l'Écriture ne donne aucune dimension. Hein, mais bon. Donc, il est dit ici qu'elle sera d'or battu. Hein, et est-ce que c'est dans ce passage une question qu'elle pesait un talent, cette pièce?
Oui.
Voilà. Alors, vous savez à peu près combien vous représenterait un talent?
30
kilos. Peut-être certains ont des nantes, hein.
30.
Ah, c'est 30, oui. Moi j'avais des nantes qui disaient 45, mais enfin, bon, on ne va pas chipoter. C'est entre 30 et 50. Ça dépend des tableaux et des versions de la vie. Mais c'est quand même 45 kilos, une quarantaine de kilos, c'est quand même assez.
Mais c'est conséquent quand même.
Parce que c'était une pièce qu'il fallait porter. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette pièce est d'or battu. Cela signifie, et tous les commentaires sont d'accord avec ça, on n'a pas créé des pièces pour les assembler. C'est un bloc qui a été créé et qui a été formé pour devenir le chandelier.
Tu veux dire qu'en fait, on a pris un bloc d'or et on a fait...
Il a été sculpté
d'une seule... Dans un moule.
Alors, je ne sais pas. Nous avons un texte dans Exode 31. Le responsable de tout ça, il s'appelait Bethsalel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins. » Voilà. Et donc, tout a été fait par lui, hein, les vêtements, la tente, et de façon plus précise, peut-être c'est quelques versets avant, dans le chapitre 27, je crois, où nous lisons, où il y a à nouveau parlé de Tu feras l'autel sur Betsaël, Exode 37, pardon, excusez-moi, 37.
Je crois, 37.
Voilà, Betsaël, encore lui, fit l'arche de bois.
D'acacia.
Bon, on y viendra sur l'arche. Il fit le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Il fit les chérubins d'or. Verset 17, il fit le chandelier d'or pur. Il le fit, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Donc, comment il s'est pris, on ne sait pas. Comment il a fait ça, est-ce qu'il a fait. Mais battu, c'est pas fondu. Je parle. C'est autre chose comme c'est.
Voilà. C'est battu au fur et à mesure pour le former.
Donc il n'a pas coulé de l'or, ou il aurait fait un moule. Non. Je crois qu'il a ciselé l'or. Donc ça intensifie aussi l'image de Christ qui a été frappé. Je crois que c'est important. Voilà, qui a été frappé pour être notre lumière. C'est d'abord une représentation de Christ. Hein. Donc, en tout cas, il était un orfèvre extraordinaire, qui est ceux de la place Vendôme à côté. Donc, il avait, nous voyons ses branches, hein, qui vraiment est l'image de celui qui symbolise tout en tous.
L'or est plus malléable à travailler quand même par rapport au fer ou à l'air.
C'est un métal
tendre.
Il utilise un peu toutes les méthodes parce qu'au verset 37, verset 3, il fondit pour elle 4 anneaux d'or. Donc il utilise toutes les méthodes.
D'accord, ouais. Le verset 3, hein. Ouais.
Il fondit pour elle 4 anneaux d'or.
Ah oui, alors là, les quatre anneaux
fondit.
C'était des pièces, parce qu'on n'avait pas tellement le droit de toucher les choses simples, même l'arche. Il y avait des anneaux dans lesquels on passait des barres, et pour pouvoir porter toutes ces pièces sur les épaules. Donc on les portait pas directement, on les portait sur des tringles qui passaient par ces anneaux. Et ces anneaux servaient à ça. Ouais. Mais nous savons bien sûr que Dieu l'a choisi. Et il y a un verset, peut-être quelqu'un peut chercher Hébreux 8, et que 8, versets 1 à 5. Si quelqu'un veut lire Hébreux 8, 1 à 5.
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Ils célèbrent les cultes, images et ombres des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut dit de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne.
Voilà. Donc, si Bezalel était très habile, il n'était pas dans un sens créatif, puisqu'il a dû faire les choses d'après un modèle. Donc, il a vraiment copié ce qu'il voyait. Et c'était important, parce que tout ce qui se faisait dans le tabernacle, tout ce qui était installé, était l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir pointe du doigt Christ, son œuvre, et tout ce qui découle de Christ. Donc c'était l'ombre, donc c'est une illustre, on dirait une typologie, une illustration, une préfiguration, en quelque sorte, des choses à venir. Et d'ailleurs, le nom de Betsalel veut dire à l'ombre de. Donc à l'ombre de. Donc c'est à l'ombre du Seigneur qu'il a fait toutes ces choses et en voyant l'ombre des choses à venir. Mais ça veut dire aussi à l'ombre de, sous-entendu, sous la protection de Dieu. C'est le sens de son nom. En tout cas, le chandelier nous parle de Christ, lumière, qui a été frappé, qui a été manifesté, et donc qui a dû souffrir, et vous connaissez tous le magnifique passage d'Ésaïe 53, il a été frappé pour nos péchés. Alors, ce chandelier se présente un peu comme cela, et tel que vous le voyez, c'est assez proche de la forme que devait vraiment avoir le vrai chandelier, parce que on va avoir un petit chapitre archéologique où on a fait des découvertes archéologiques très intéressantes sur le chandelier. On n'a pas retrouvé le chandelier, hein, mais il y a des. Donc il y a 7 branches en tout, hein, qui devaient être éclairées continuellement. Il y a des pommes, il y a des fleurs aussi sur ce chandelier qui parleront du témoignage et des fruits que nous pouvons porter en Christ. Hein. Et tout cela vient de lui. Et notre union avec le Seigneur produit du fruit. Hein. Nous sommes une partie intégrante de celui qui est mort et ressuscité. Et tout ce qui touche Christ nous touche à nous. Certains y voient comme un arbre, hein, avec des branches, avec des boutons, des fleurs, des fruits. Et pour les Juifs, le chandelier, c'est un arbre de vie, en fait. Ça symbolise la vie, la lumière divine. Alors, évidemment, un chandelier devait avoir une huile. Chapitre 27, verset 20.
Mais de quel
Exode. Exode 20, 27, 20. Pardon.
Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement.
Voilà, donc c'était une huile et une préparation spéciale, absolument unique. Unique. L'huile d'onction était une autre huile préparée autrement. L'huile ici était broyée, et là encore, on trouve l'image de la souffrance de Christ. Et cette huile qui brille est l'image. Pour nous aujourd'hui, en Christ, nous brillons, l'Église brille comme un chandelier, puisque dans l'Apocalypse, on retrouve les 7 Églises. Hein, et l'Église brille par la vie de l'Esprit qui doit continuellement être allumée. Vous voyez et c'était quelque chose de très très important. Et c'est sous cette influence qu'une Église peut apporter quelque chose aux autres. Il n'y a pas d'autre puissance active autorisée. D'ailleurs, l'huile est un élément qui ne se mélange pas. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller à ce que tout ce qui se passe dans une église soit entretenu par la présence de l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec une église. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait par moments être découragé des contraintes, des conditions difficiles dans lesquelles nous sommes. Mais tant que nous sommes convaincus que le Saint-Esprit n'est pas éteint, tout va bien. Dieu veut que la lumière continue à briller dans nos vies. Voilà. Après, bien sûr, il y a des choses pour s'organiser, qui aident, qui facilitent, et tout ça, c'est complémentaire. Par contre, le sacrificateur, il devait constamment entretenir ses lampes pour enlever toute impureté. Parce que souvent, des impuretés peuvent s'accumuler et pourraient étouffer cette flamme. Donc, c'est notre Seigneur, le divin sacrificateur, qui permet d'évacuer les impuretés. Alors, il y avait aussi, sur ce chandelier, il était question d'amande. Et il y a quelque chose d'intéressant avec l'amandier, c'est que l'amandier est le premier arbre à fleurir après l'hiver. C'est en Israël, donc l'amandier, tout d'un coup, il y a des fleurs blanches qui explosent de partout. Hein. Donc, il est très rapide. L'amande arrive très vite et consommable très rapidement après que la fleur soit tombée. Ça n'attend pas. Et dans Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. On l'a déjà évoqué cela peut-être. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier, ici, le sens du mot hébreu, exprime la rapidité. Celui qui se réveille, celui qui agit. Hein. On pourrait traduire le verset comme ça. Je répondis, je vois un rameau de l'arbre hâtif qui se dépêche. Tu as bien vu parce que je vais me hâter d'accomplir ma parole. Je ne tarderai pas. Et ça nous indique quelque chose de profond parce que quand quelqu'un se convertit réellement, il ne va pas porter des fruits 3 ans après. Il y a des personnes qui arrivent et on se dit, mais quand c'est qu'on va avoir un changement? Mais je vous assure que celui qui s'ouvre à Christ, la vente arrive assez vite. C'est ce genre de fruit qui arrive. Et c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur fait dans la vie. Et parfois, quand il n'y a rien qui se passe, on peut se demander s'il y a eu vraiment conversion et si l'esprit a la liberté d'œuvrer. Parce que si l'œuvre, Dieu ne va pas tarder pour accomplir sa parole et manifester les fruits de l'esprit au travers du cœur du croyant. Donc la seule source de lumière dans le sanctuaire, c'est le Saint-Esprit. Et éclairé par l'huile d'olive pure et vierge, hein, par les fruits, et par notre vie fructueuse. Il y a aussi des pommes. Alors, dans le Cantique des Cantiques, on voit les pommes qui sont un symbole de bénédiction aussi, de nourriture, qui nourrissent. Hein, donc des produits qui réjouissent le cœur du bien-aimé, dans cet hymne d'amour, nous voyons les pommes comme un élément qui réjouit le cœur du bien-aimé. Donc il y a une pomme sur chaque branche et quatre sur la centrale. Alors, nous allons regarder maintenant, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez dire sur le, un petit peu les éléments spirituels de l'amandier, on va regarder ce qu'est devenu le chandelier. Alors évidemment, vous savez, on a tous l'histoire de la destruction du temple en 70 par Titus et les Romains sont partis avec le chandelier. Nous allons voir des traces de ce chandelier à Rome. Mais pour Israël, aujourd'hui, le chandelier reste quand même un objet très très fort qui leur rappelle les racines. Et il y a, alors je vais vous montrer cette image, c'est un chandelier qui se trouve devant le Parlement d'Israël. En bronze, 4 mètres 30 de haut, et il se trouve en bordure des jardins. Donc, c'est un sculpteur juif qui a créé cela en 56, et il a pris pour modèle le chandelier du temple. Alors, il y a des reliefs qui, quand on regarde de près, qui parlent de l'histoire d'Israël, bien sûr. Et donc l'exil de Babylone, les persécutions, même le ghetto de Varsovie s'y trouve. Et ce qu'on apprend aussi après, c'est que l'intérieur de la Knesset, l'architecture, la disposition des sièges était aussi pour rappeler le chandelier. Alors, c'est très stylé, mais bon, voilà, il y a les pieds, les branches qui sont... Voilà, ça c'est l'intérieur du Parlement d'Israël. Où il y a 120 sièges, puisque Moïse a vécu 120 ans. Donc c'est vraiment un chiffre très très bon.
Voilà. C'est 10 pour les 12 tribus.
Voilà, aussi. Alors là, il y a aussi un autre chandelier. Celui-là, il se trouve, si vous avez le privilège d'aller en Israël, quand vous allez atterrir à Ben Gurion, à l'aéroport, il est juste à la sortie. C'est Salvatore Dalí qui l'a fait, celui-là.
Il est original.
Oui, alors, bon, c'est Dalí, hein.
Oui.
Mais il y a quand même, dans la Bible, un passage dans l'Ancien Testament qui associe la lumière et le chandelier. Alors bien sûr, c'est Christ, mais c'est considéré aussi cette lumière qui est comme les yeux de Dieu. C'est une expression que l'on trouve dans Zacharie chapitre 4. Et c'est important aussi de compléter la symbolique du chandelier de ce prophète qui parle des sept lampes qui sont les yeux de Dieu, qui voient toute la terre, à qui rien n'échappe. Et parfois, quand on cherche quelque chose, on dit passe-moi une torche, s'il vous plaît, pour que je vois où est partie la pièce que je cherche. Et si vous lisez Zacharie 4, vous allez découvrir, donc, on peut regarder les yeux de Dieu. Et donc, les Juifs, quand même, quand ils regardent le chandelier, connaissent ce texte de Zacharie. Et ça leur rappelle leur dépendance, que leur vie, ce peuple est sous le regard de Dieu aussi. Ils n'échappent pas à la lumière de Dieu. Donc Zacharie, chapitre 4,
c'est à partir du 2.
Voilà. Je regardais, voici un chandelier tout avant, surmonté d'un vase, portant 7 lampes.
À partir.
Et c'est plus tard. Au verset 10, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient les deux oliviers à la droite du centre du chandelier et à sa gauche? Voilà. Et puis bon, là, c'est dans une toute autre vision qui est donnée. D'ailleurs, c'est le seul endroit dans la Bible de Zacharie qui parle d'Israël comme la terre sainte. Au chapitre 2, verset 12, non. C'est la seule expression dans toute la Bible où Israël est appelé la terre sainte. Les religions ont appelé ces lieux la terre sainte. Pour toutes sortes de récupérations. Et il y a quatre endroits français en Israël qui sont à la France. Mais c'est le tombeau des rois, des basiliques, un couvent aussi sur le mont des Oliviers. En fait, voilà, ça a été offert à la France autrefois, mais en fait, la terre, selon la Bible, on voit que plusieurs fois il est écrit qu'elle appartient à Dieu. Hein. Alors nous allons aller un peu plus loin et on voudrait aussi, parce que c'est hyper encourageant, c'est un sujet très intéressant, c'est les traces archéologiques du chandelier lui-même. Là je vous présente une archéologue, Elat Mazar. Nous sommes en 2013. Elle a découvert ce médaillon autour du mont du Temple, là où il y a des ruines. Et donc ce médaillon qui n'a que 10 cm de côté. Donc voilà. Et il a été daté de 615 avant Christ.
Donc c'est
quand même assez prestigieux, ce médaillon. Il y avait le chandelier. Et donc on voit graphiquement comment il était. Puisque quand même il date de l'époque de la conquête de Jérusalem par les Perses. C'était il y a longtemps. Après, on a découvert aussi un autre chandelier dans une synagogue. Donc, c'est une pierre où il y a à nouveau ce chandelier sculpté. Un genre de sarcophage qui date du 1er siècle. Et qui a été découvert dans une synagogue au bord du lac de Tibériade. C'est quand même intéressant, et on reconnaît bien le chandelier là. D'ailleurs, il y a pas très très longtemps, une expo assez particulière entre le Vatican et le musée d'Israël à Rome. Et cette pierre a été bougée jusqu'à Rome. Sur le thème du chandelier en plus. Alors, tout le monde croyait que le Vatican allait sortir le vrai chandelier de ses membres. Donc là, ça n'a pas été le cas.
C'est
pas vrai. Mais maintenant, on ne sait plus où il est parti.
Comme l'arche.
Hein?
C'est comme l'arche.
Oui,
ils ont été pris ensemble. Hein? Ils ont été pris ensemble.
Alors, ce que l'on sait, alors, par contre, on sait que le chandelier est arrivé à Rome. Et est-ce que quelqu'un a vu cette arche après, l'arche de Titus à Rome? C'est, voilà, moi si j'allais à Rome, c'est le seul endroit où j'ai envie de voir. Hein? Parce que Titus, qui a fait le siège de Jérusalem, qui a détruit le temple, évidemment, quand il est revenu à Rome, eh ben, il n'a pas dit, je vais regarder les photos là, regarder les espoirs que j'ai fait. Il s'est construit un arc de triomphe, et l'arc de triomphe de Paris est d'après ce modèle. Il s'est construit un arc de triomphe où sont sculptés tous ses exploits. Et parmi les exploits, à l'intérieur de l'arche, il y a le transport du chandelier qui est arrivé donc à Rome. Donc, vous vous rendez compte, donc ça c'est. Là, nous avons un témoignage actuel qui a donné l'âme aussi. des Romains qui ont sorti le chandelier.
Le chandelier.
Et c'est un autre instrument.
Alors, après, j'ai fait rentrer des noms.
Non, mais je pense que. Sur la droite, là, c'est l'arche. Je pense que. Plusieurs disent que c'est l'arche qui est représentée.
Ils ont pris tout en même temps. Hein.
Je vais prendre une photo plus large.
Ce qui est étonnant, quand même, c'est un peu. C'est très symbolique. Que tous ces instruments-là qui étaient dans le temple d'Israël soient venus à Rome. Au moment où les chrétiens commençaient à se développer quelque part.
Non, pas du tout. C'est 70 avant Jésus-Christ.
Ah, c'est 70 avant Jésus-Christ.
Oui, après, il n'y avait pas de pape, il n'y avait pas.
Oui, non, mais je sais. Mais après, on a l'Église qui s'est développée. C'est comme si le Seigneur disait, mais maintenant, ma lumière, elle est pour les païens. Et quelque part, hein, je le joue. C'est un peu.
L'histoire dit que Titus, après, avait obligé les Juifs à passer sous cette arche pour montrer, pour les humilier. D'ailleurs, depuis, vous ne faites pas passer un Juif sous cette arche. Par contre, quand Israël est né, la communauté juive s'est rassemblée, et pour célébrer cet événement, ils sont passés sous l'arche dans la direction opposée qu'avaient pris les Juifs quand ils étaient humiliés. Donc ils ont fait le chemin inverse et pour marquer le fait que Israël était né. Donc après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu des pillages de Rome après, par les Visigoths. Je ne connais pas bien l'histoire et dans les détails, dans les années 400, je crois. Voilà, donc les Vandales aussi. Donc sont venus et voilà. On ne sait pas, c'est un mystère total.
Sauf pour Indiana Jones.
Pardon? Alors, il y a eu un petit incident en 2017. Vous savez qu'en 2017, l'UNESCO a déclaré que le monde du temple était en fait destiné aux musulmans. Et il n'y avait plus du tout de traces d'identité juive. Ce qui a rendu fou les gens d'Israël. Et donc, ils ont fait un moule, ils ont fait une reproduction du relief de Titus, qui sont allés porter à l'UNESCO pour leur rappeler l'histoire. Voilà. Et pour leur montrer qu'il y a des liens réels entre les Juifs et le monde du temple. Et donc, et c'est vrai que à l'UNESCO, donc dans le département culturel de l'ONU, voilà, tout est musulman maintenant à Jérusalem. Vous avez peut-être remarqué même c'est cette semaine, le Kosovo et la Serbie qui ont décidé de tiens, on va mettre notre ambassade à Jérusalem. Tous les pays d'Europe leur tombent dessus, c'est un scandale, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Donc les nations ne veulent pas que Jérusalem ait un lien avec les Juifs. C'est le seul pays au monde, Israël, le seul pays au monde qui n'a pas le droit de choisir sa capitale. N'importe quel pays choisit sa capitale. Mais Israël n'aurait pas le droit. Et donc, c'est quand même étonnant cette violence et cette hostilité. Alors là, Netanyahou a dépêché l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et a Bon, ils ont accepté le cadeau, hein, mais bon, c'était quand même un message assez fort. Alors, il y a un autre chandelier sur lequel je voudrais dire deux mots. Est-ce que vous savez pourquoi il existe des chandeliers à 9 branches? Parfois, on voit des chandeliers à 9 branches. Ça s'appelle la amicia. Et donc, il y a eu un événement assez fort avant Christ, au deuxième siècle avant Christ, quand les Syriens et les Grecs ont voulu faire disparaître, là encore, l'identité juive, et ils voulaient assimiler les Juifs à la culture grecque. Et donc, il y avait un roi, Antiochus Épiphane, qui était très, très, très blasphémateur avec les choses de Dieu. Et donc, il y a eu une révolte de ce qu'on appelle une famille qui s'appelait les Maccabées. Donc, ils se sont révoltés. Et il y a eu même des profanations du temple qui avait été reconstruit. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'huile. Hein. Et donc, cette huile pure dont on a parlé avait disparu. Et une fois que tout avait été saccagé, le temple profané, il restait de l'huile pour un jour. Alors, mais il fallait 7 jours pour en fabriquer une nouvelle. Il a manqué et il fallait plusieurs jours pour retrouver les ingrédients. Et selon la tradition juive, selon les sages d'Israël, cette huile qui normalement aurait dû brûler un jour a brûlé 8 jours. Et les Juifs ont la fête de la lumière en décembre. Et c'est pour cela qu'ils ont un chandelier à 9 branches. Pour célébrer la victoire sur cet épisode douloureux 200 ans avant Christ. Et donc ça, l'arbre n'est plus tout à fait dans la Bible, ça fait dans la tradition juive. Et les Juifs disent, mais il y a eu un miracle, l'huile n'aurait pas dû brûler pendant 7 jours, mais elle a brûlé le temps qu'on en reprend d'autres pour rallumer le chandelier du temple. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler encore d'une chose autour de ce chandelier. Nous allons aller dans le psaume 67. Le psaume 67. Si quelqu'un veut me le lire, peut-être. Oui, merci. Tout le psaume, il est très court.
Au chef des chants, avec instrument à cordes, somme, chantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse lumière sur nous, sa face. Enfin que tu connaisses sur la terre ta voix, que parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre les craignent.
Merci. Alors, un jour, un jeune m'avait posé une question, il m'a dit, Alain, j'aimerais que tu me montres, par plusieurs passages bibliques, bon, il y a Israël, c'est le peuple choisi, mais autrefois, avant l'Église, dans l'Ancien Testament, du temps d'Israël, même avant Israël, comment Dieu communiquait aux nations le plan de son salut? Si tout était centré sur Israël et en Israël, quelle était la stratégie divine pour que si quelqu'un n'importe où dans le monde était préoccupé par les choses de Dieu, il puisse avoir des passerelles pour découvrir plus. Les nations vivaient souvent d'idolâtrie, de pratiques assez barbares, avec des sacrifices humains, enfin, il y avait beaucoup de choses qu'on imagine. Mais la révélation du Dieu créateur n'était pas évidente. Alors, cela m'a amené, donc il m'a posé la question il y a presque un an. Je lui ai donné mon devoir il y a 3 semaines. Mais j'ai repris toute la Bible et ce thème est passionnant. Et parmi les épisodes nombreux où il est question des nations, mais pas d'Israël, et bien, ou du lien entre les deux, il y a le psaume 67. Et le psaume 67, dans cette perspective-là, nous montre la vraie vocation du peuple de Dieu, mais aussi par prolongement notre vocation. C'est-à-dire que qu'il ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Donc, c'est le chandelier qui nous éclaire. Nous sommes au bénéfice de cette lumière, et le but, quand Israël dit qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Donc là, le but, et même le peuple d'Israël avait saisi, là, au travers de ce psaume, quelle était sa vocation. Je suis éclairé par le Seigneur, je suis éclairé par le divin chandelier, et ce n'est que ce que je reçois de Dieu qui va me permettre de faire connaître aux autres sa voix. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu du Seigneur. Et les peuples tout nouveaux, les nations se réjouissent et sont dans la dégresse. Car si le peuple qui accepte que la face de Dieu luise sur lui soit vraiment dans cette position, ça sera automatiquement une bénédiction pour tous les peuples. Et c'est vrai aussi, c'est encourageant pour nous, parce que parfois, autour de nous, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas toujours avoir les mots qu'il faut. Mais tout ce que nous avons appris, Seigneur, fais luire sur nous ta face. Alors, on sait, on a l'exemple de Moïse qui était avec le Seigneur, et il ne savait même pas que son visage brillait à force d'être avec le Seigneur. Mais si nous savons protéger, garder cette lampe allumée, cette lumière, il y aura un effet sur notre entourage. Et ça, c'est encourageant. Et c'est le sens du psaume 67. Et là, on voit qu'Israël, tous les peuples de nous, la terre dont s'est produit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre donc, te craignent. Donc il y a vraiment un lien de cause à effet entre la situation spirituelle d'Israël et l'enrichissement du monde spirituel. Et cela a été quelque chose de très connu en Israël. Là, c'est juste le passage, donc dans ce que j'ai donné à ce jeune, là, il y a plusieurs pages. Mais pourquoi je choisis ce passage? Parce que ce que vous voyez derrière moi, là, c'est le psaume 67. Et les Juifs l'ont écrit en forme de chandelier. C'est intéressant. Ils ont écrit ce psaume sous la forme d'un chandelier, justement. Et d'ailleurs, il y a une coutume, selon certains rabbins, que David avait certainement, sur son bouclier, le psaume 67 gravé, comme ça, sous la forme d'un chandelier. Bon, on n'est pas sûr, mais ça, c'est ce que dit la tradition juive, parce que même les Juifs ont leur tradition. Donc, ils disent aussi, quand David portait ce bouclier, il était toujours vainqueur, évidemment. Mais, en fait, ce que les Juifs ont fait comme rapprochement, c'est la structure du psaume 67, « Fais luire sur nous ta face et que les nations soient éclairées », ils l'ont mis en forme de chandelier. Je trouve ça assez remarquable. Et je trouve que c'est une belle image pour clôturer un petit peu ce chapitre sur le chandelier. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions, quelque chose que vous voulez ajouter. Vous demandez. Et on a trouvé des gravures très très anciennes du psaume 67 sous la forme d'un chandelier. Et quand on le relit, on voit que Israël prie d'abord, si nous on est à notre place, donc aussitôt les nations reçoivent tout ce qu'elles doivent recevoir concernant la connaissance de Dieu.
Qui se fait actuellement par toutes les nations, même la vie du Seigneur. La parole du Seigneur est diffusée dans toutes les nations, et c'est vrai que c'est le point de départ.
Alors aujourd'hui, il est vrai que, donc, depuis 2000 ans, le Seigneur a mis à l'écart le peuple d'Israël, et s'est construit, et s'est, voilà, il a formé quelque chose qui n'avait pas été révélé, comme dit Éphésiens dans le passé. Il a mis en place l'Église, composée de juifs et de non-juifs, et la Bible insiste encore sur cette idée, vous êtes la lumière, vous êtes des enfants de lumière. Philippiens dit, nous portons la parole de vie comme un flambeau. Donc, et plus l'Église se trouve à porter la parole de Dieu, plus c'est un bénéfice pour tous. Plus l'Église se perd dans des traditions, dans des superstitions, dans des choses qui n'ont rien à faire avec ce qui vient de Dieu, alors moins ce sera une bénédiction autour, c'est sûr. À tel point que moi, quand j'allais à l'Église dite chrétienne, avant que je connaisse le Seigneur, je n'avais jamais lu de Bible et je ne connaissais rien. Donc je n'étais pas éclairé, vraiment. Je n'étais pas au bénéfice d'un chandelier, quel qu'il soit. Voilà donc pour le chandelier. Et alors, on verra la prochaine fois la table en face des. Parce que, on va montrer. En face, c'est le chandelier. Là, on est dans le lieu saint. Elle éclaire. Elle éclaire un petit peu le matin, mais pas clair. Bon, en face, il y a les pains de. Une table avec des pains dont les sacrificateurs se nourrissaient. Bon, nous parlerons de cela. Et un autel de parfum qui était. Donc nous verrons cela la prochaine fois. Quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, on va s'arrêter là pour ce soir. Et peut-être on peut terminer la prière. Jean, je vais vous présenter.
Oui, Seigneur, notre Dieu et Père, nous te bénissons pour la lumière. Parce que tu es la lumière du monde et tu es venu pour éclairer afin que tout homme, Seigneur, qui est dans les ténèbres, soit éclairé. Et Seigneur, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de favoritisme ou n'importe quel acte qui serait. Donc, tout est gratuit, tout est accessible à tout le monde, Seigneur. Et cette lumière, nous voulons la laisser briller dans nos cœurs. Afin, Seigneur, que, comme il a été dit, que le monde va aussi. Et que le monde soit éclairé, parce que tu dis aussi, vous êtes la lumière du monde. Seigneur, permets que nous ne puissions pas négliger, nous ne puissions pas garder cette lumière pour nous-mêmes. Nous la mettons sous un boisseau, quelque chose comme ça. Mais donne-nous, Seigneur, de briller, de porter cette lumière. Merci parce que c'est toi qui accomplis cela dans nos vies. Et nous devons te laisser faire. Merci pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Et nous ne voulons pas oublier, laisser tomber aucune parole. Mais nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Seigneur, merci de nous accompagner. Que tu sois tous les jours la lumière qui brille en nous. Merci Seigneur. Merci.